Bonsoir à toutes et à tous. Partout où vous nous recevez, Darlita Dolbel de Njingimi à Gaya, c'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangu. Cette émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum de ce soir est les tenants et les aboutissants de la déclassification d'une partie de la réserve naturelle nationale de Termit et Tentoma par le gouvernement du Niger. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé cette décision du gouvernement? Quelles sont les principales conséquences qui peuvent résulter de cette déclassification? Quelles sont les mesures éventuelles prises ou celles qu'il faut envisager pour protéger la faune et la flore de la région? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité le lieutenant-colonel Hamissou Halilou Malam Garba, conseiller technique du directeur général des Eaux et Forêts. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir.
Et Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE. Sani Ayouba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous avons également invité le ministère du Pétrole pour cette même émission, mais aucun représentant pour ce ministère. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Les tenants et les aboutissants de la déclassification d'une partie de la réserve naturelle nationale de Termit et Tentoma par le gouvernement du Niger, c'est le thème autour duquel nous allons discuter durant trois quarts d'heure. Le Niger est un pays qui regorge d'énormes potentialités fauniques, sauvages, riches et variées. Il dispose de quatre grandes réserves dont les deux sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit 1. Du parc national du W du Niger dans la région de Tillabéri, créé en 1954. 2. De la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré dans la région d'Agadez, créée depuis 1988. 3. De la réserve totale de la faune de Gadebeji dans la région de Maradi, créée en 1954. Et enfin, la réserve naturelle nationale de Termit et de Tintouma, RNNTT, qui s'étend entre les régions d'Agadez, des Ender et des Difa, créée depuis le 6 mars 2012. Il abrite 139 espèces d'animaux, dont des adax, des mouflons, à l'état sauvage. Et c'est de cette réserve dont il est question dans ce forum. Le 26 juin 2019 passé, le Conseil des ministres nigérien a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2012-0115 du 6 mars 2012 portant classification de la réserve naturelle nationale de Termit et de Tintouma. Cependant, la réserve de Termit et Tintouma conservera la même superficie de 96 560 km², mais les limites seront déplacées vers les communes de l'ouest et du nord, notamment les communes d'Aderbisnat, de Tenia, de Chirozerine, de Tabelot et de Timia. C'est ce que l'on pourrait lire dans le communiqué du dit Conseil des ministres. La déclassification d'une partie de la RNTT en faveur de l'exploitation pétrolière, c'est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et a été l'objet d'une levée de boucliers de la part des activistes pour l'environnement qui ont lancé une pétition. Alors, je commence par vous, Sani Ayouba. Pouvez-vous nous rappeler, en grosso modo, les caractéristiques de la réserve naturelle en question et son importance pour le Niger?
Oui, merci beaucoup, Alassane. Je pense que vous avez eu à bien présenter la réserve naturelle nationale de Termit et Tintouma. C'est vrai, c'est l'une des réserves qui abrite plus de 130 espèces d'animaux, dont l'adax. Ce qu'il faut retenir sur l'adax, c'est un animal qui envoie des disparitions. Et donc, c'est uniquement dans cette partie, en tout cas du Niger, qu'on en trouve à l'état sauvage. Il y a aussi les mouflons, il y a les massifs montagneux, il y a pas mal d'animaux ou d'espèces fauniques qui peuplent cette zone. Et c'est une zone de par sa superficie aussi, vous voyez, presque 100 000 km², l'étendue c'est assez vaste, et qui est superposée à trois blocs pétroliers. Je ne sais pas si c'est le malheur de cette zone ou c'est le bonheur, mais de cela nous allons en discuter. Bon, voilà un peu brièvement, en plus de ce que tu as rajouté, ce qu'on peut dire par rapport à cette réserve.
Lieutenant-colonel Hamissou Halilou Malam Garba, je le disais, conseiller technique de la Direction générale des Eaux et Forêts, au niveau de la Direction générale des Eaux et Forêts. La réserve naturelle nationale de Termit et Tintouma a été créé, Sani l'a dit, effectivement, récemment, c'est en 2012, en mars 2012. Voilà que y a cette autre décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, je le disais, cette modification des limites de la dite réserve créée récemment. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'étendue de la réserve concernée par ces modifications de limites?
Merci de nous avoir donné l'occasion, encore une fois de plus, d'expliquer ou en tout cas d'expliciter cette situation auprès de l'opinion publique nationale et internationale par rapport à cette situation de déclassement de la réserve naturelle nationale du Termit Tentuma. Je dois, avant de commencer, dire que le Niger dispose d'environ 9 aires protégées, dont justement cette réserve naturelle. Comme vous l'avez dit, mais on ne dispose que de 2 aires protégées classées sites du patrimoine mondial. Et il y a des aires protégées qui sont en même temps sites du patrimoine mondial et réserves de biosphère. La réserve du Termit Tentuma n'est pas un site du patrimoine mondial, encore moins une réserve de biosphère. Ça, c'est le classement international que nous cherchons auprès de l'UNESCO pour nous conforter dans la conservation. Alors, pour revenir à la superficie de la réserve naturelle nationale Termit Tentuma, c'est que on peut dire pratiquement la surface n'a pas été diminuée. On a fait juste un report de limite. C'est vrai que ça a un enjeu, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout en fait la conservation de la biodiversité qui est le plus important dans tout ça là. On peut être au Termit, on peut être au lac Tchad, on peut être dans l'Aïr, on peut même être ici sur le fleuve. Ce qui est important, c'est l'engagement de toutes les parties prenantes pour la conservation de la biodiversité. Et comme vous le savez, ce n'est pas l'État, c'est vrai, joue sa partition, mais l'État aussi a l'obligation de veiller sur tout. Et donc aujourd'hui, l'État, c'est lui qui au départ, on ne l'a pas dit, qui a demandé, avec l'accompagnement des experts, des partenaires, de classer la réserve en 2012. Ça aurait pu être resté comme ça, malgré qu'il y ait eu des actes dans la zone qui soustraient l'État au classement de cet espace. Mais l'État, pour se conforter dans sa position, pour pensant vraiment accompagner la conservation, il a jugé utile en plus de sanctuariser l'espace.
Mais n'est-ce pas une sorte de marche arrière qui a été faite à ce niveau?
Bon, ce n'est pas véritablement une marche arrière parce que l'État, en dehors de ses dispositions, a la possibilité de récupérer ailleurs. Et je dois aussi dire que les espèces qu'il y a au niveau du Termit Tentuma, il y a exactement, sinon, il y a les mêmes espèces au niveau de la réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré. Et donc, aujourd'hui, le fait de créer la réserve de Termit Tentuma en 2012, l'Aïr Ténéré était créé en 1988. Donc, je crois que c'est pour un petit peu renforcer. Bon, très malheureusement, on a déplacé. Mais je pense que le problème, c'est que c'est l'espèce animale, c'est la biodiversité. Alors, tout le souci, c'est la conservation de la biodiversité. Donc, si la biodiversité peut s'en tirer avec l'engagement de toutes les parties prenantes, je crois que vraiment le problème ne se posera pas.
Bien. Alors, Sané Ayouba, le lieutenant-colonel parle, on dit que ce n'est pas une coupure ou une rupture qui a été faite au niveau de la réserve, mais plutôt une sorte de transfert d'une partie des déplacements d'une partie de la réserve vers des endroits un peu plus au nord et à l'est. Comment comprendre alors cette situation avec toute la faune qui vit à ce niveau? Ça veut dire que cette faune va être obligée de migrer par la présence des engins et des hommes?
Oui, mais c'est vrai, il ne faudrait pas oublier aussi, comme je l'ai dit, la superficie, hein, presque 100 000 km², c'est quand même vaste, c'est énorme. Mais aujourd'hui, le fait de prendre jusqu'à 45 000 km², ça fait presque la moitié de l'espace prévu. Alors, notre inquiétude, c'est effectivement par rapport à la conservation. On s'est dit que l'ensemble des espèces dénombrées qui vivent dans cet espace, s'il faut les migrer encore, c'est-à-dire ajouter de l'autre côté 45 000 km² pour qu'ils puissent avoir... je pense que ce n'est pas la notion de l'espace qui est importante ici, mais c'est la notion du déplacement de leur milieu naturel vers peut-être un milieu inconnu, avec tous ces conseils, parce que ça va rentrer dans la partie peut-être où se fait la chasse, ok, ou le braconnage, etc. On sait bel et bien avant aussi que la zone ne soit sanctuarisée, c'est des pratiques aussi qui existent. Mmh. Mais maintenant, l'autre problème pour nous aussi, on s'est dit, d'après des lectures que nous avons eues à faire de certains rapports que je ne peux pas authentifier, ils disent que la partie qui sera ajoutée à la partie qu'on va retirer, c'est une zone qui n'a pas d'intérêt écologique. Peut-être que le lieutenant-colonel va nous en dire plus, parce que c'est inquiétant. Si on les déplace vers une zone où ils n'ont pas, il n'y a pas assez d'intérêt écologique, donc ça ne sert à pas grand-chose.
Qu'est-ce que vous entendez par intérêt écologique?
C'est-à-dire que le milieu n'est pas... Absolument, le milieu n'est
pas
favorable exactement au développement de cette biodiversité qui est là. Donc, au lieu qu'on continue dans la conservation, peut-être qu'on risque de perdre d'autres espèces. Donc, voilà pour tout, nous, l'intérêt. Et aujourd'hui, on sait bien que le Niger est partie prenante de plusieurs conventions en la matière qui obligent quand même l'État à respecter. Et nous ne voulons pas
notamment
aussi...
la convention sur la diversité biologique,
bien sûr,
qui a été signée par le Niger en 92 et ratifiée en 1995.
En plus de cela, il y a, je pense qu'il y a l'oasis du Cap, il y a l'Aïr Ténéré aussi, qui sont des sites quand même assez protégés, qui sont un peu contigus à cette zone. Donc, c'était de voir comment faire, en fait, si toutes ces zones-là arrivent à être ensemble, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres types de conflits qui vont... Mais le plus important pour nous, c'est de voir cette compagnie pétrolière-là qui est en train de faire l'exploitation. Quelles sont les... Parce que c'est une compagnie qui est mondialement reconnue par rapport à son activité et ailleurs qui ne fait pas ce genre de pression ou qui essaie de respecter ses clauses par rapport à l'État, par rapport à l'environnement, par rapport au social. Donc nous voudrons nous assurer que l'exploitation du pétrole ne va pas nuire au développement de la biodiversité, ne va pas nuire aux efforts que l'État a consentis par rapport à la conservation. Donc il est très important qu'on soit sûr qu'il y a un mécanisme permettant. Et de l'autre côté, on se pose la question, au lieu de déclasser cette zone, y a-t-il pas d'autres alternatives? Parce que d'autres experts ou bien d'autres pensent que c'est possible qu'il puisse y avoir d'autres mécanismes de cohabitation ou bien d'autres mesures permettant à ce que la zone ne puisse pas être déclassée.
Nous allons revenir, Sani. Lieutenant-colonel Hamissou Halilou, Madame Garba, est-ce qu'on peut savoir les motivations du gouvernement en prenant cette décision?
Avant de répondre à cette question, je voulais un petit peu interagir ou réagir sur ce que le camarade Sani vient de dire et de ses inquiétudes. Je pense que vos inquiétudes sont très bien fondées. C'est juste que vous vous inquiétez en tant que Nigérien et en tant que soucieux de la conservation de la biodiversité et particulièrement de la faune. Et c'est vrai que la faune, c'est des êtres vivants, ils bougent. Et il y a ce qu'on appelle la migration. Chaque espèce a ce qu'on appelle une niche écologique, un milieu auquel elle est inféodée. Dieu merci, on a la chance que, comme je le disais tantôt dans mon introduction, que la réserve de Termit Tintouma, il y a en haut la réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré, qui ont presque le même biotope, qui sont presque dans les mêmes conditions. Et à un moment donné, d'aucuns disent, ça reste encore à vérifier, que certaines espèces de la réserve Termit Tintouma et de la réserve de l'Aïr descendent et vice-versa. Donc, on peut espérer ou on peut comprendre, comme c'est des espèces migratrices, que ça peut évoluer. Et à un moment donné, quand les espèces au niveau de l'Aïr étaient un petit peu menacées, et les gens avaient dit que elles sont redescendues au niveau de Termit. Alors, on peut espérer aussi ce phénomène. Et par rapport à l'écologie, je crois que on a la chance que les espèces qui sont, je dirais, en question, là, on a comme un doublon, je peux dire, les Adax, en dehors de l'Adax, dont l'existence n'a pas formellement été mise en exergue ces derniers temps au niveau de l'Aïr, mais pratiquement toutes les autres espèces y sont représentées. Et en autant, je pense, de population, d'effectifs qu'au niveau de l'Aïr. Maintenant, je reviens par rapport à votre question. C'est que, bon, nous ici, moi, je représente le ministère de l'Environnement et particulièrement la Direction générale des eaux et forêts. Donc, je ne peux pas parler au nom du ministère du pétrole. Je ne peux pas savoir les mobiles. Mais tout ce que je sais et tout ce que je peux dire, nous sommes un État. Et aujourd'hui, nous parlons de plus en plus d'aires protégées de troisième génération. Et c'est quoi les aires protégées de troisième génération? C'est des aires protégées qui prennent en compte
qui concilie le développement et la conservation. Et je pense que le développement et la conservation sont compatibles. C'est vrai qu'il y a des nuisances sonores, que, par exemple, l'exploitation, certaines phases d'exploration, d'exploitation, ou même, je ne sais pas, d'autres activités minières
peuvent impacter, chasser.
Mais l'État a pris des dispositions par rapport à cela. Et si on se rappelle, au moment de la première phase de l'exploration ou l'exploitation du pétrole, il y avait eu, en son temps, par l'intermédiaire du ministère du pétrole, une étude d'impact qui avait été commanditée. Et l'étude d'impact, il faut dire que c'est le ministère de l'Environnement qui est au cœur. C'est eux qui sont je dirais, les dépositaires. Donc, on a, au cours de cette étude d'impact, on a fait le bilan, on a fait le point de tout ce qu'il y a comme impact qui peuvent impacter, même au-delà de la faune, au-delà de la biodiversité, même des humains ou en tout cas du bien-être. Donc, par conséquent, il ne suffit qu'à appliquer les recommandations. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec les exploitants de cette zone-là, il y a une structure, nous, au niveau du ministère de l'Environnement, que le bureau ou la direction générale qui est maintenant commue en direction générale d'évaluation du type d'impact environnemental, qui est là, qui veille. Et à des périodes données, ils font des audits environnementaux au niveau de la zone en question, de la zone d'exploitation. Et j'ose espérer que si même on a déclassé cette partie au détriment d'une autre partie, les animaux connaissants, n'étant pas attachés, peuvent évoluer en fonction des conditions. Je pense que ces partenaires-là peuvent continuer à mettre l'accent sur la conservation et on peut, nous, en tant qu'État, on peut les accompagner pour pouvoir vraiment arriver à l'objectif qu'on s'est tous assigné, qui est la conservation de la biodiversité.
Bien. Sani Ayouba, le Niger se trouve là face à cette question délicate, faire le choix ou concilier les deux, le choix entre le développement économique, la protection de l'environnement, ou concilier les deux. Le lieutenant-colonel parle de réserve de troisième génération qui concilie le développement économique et en même temps la préservation de la biodiversité. Quelle analyse ?
Oui, je pense que nous sommes parfaitement d'accord avec ce type d'approche. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait dire que dans le cadre de nos analyses, nous respectons le choix du gouvernement par rapport à l'exploitation du pétrole. Ça, c'est une chose à savoir. La deuxième des choses, c'est que nous méritons également le développement. Et nous, notre rôle en tant que citoyen, en tant que structure de la société civile, c'est d'accompagner l'État, l'autorité publique sur toutes les questions de développement. Alors, mais nous pensons que le développement ne doit pas forcément se faire au détriment de l'environnement parce qu'on a vu des cas un peu partout qui permettent de lier les deux pour qu'il y ait une harmonie et permettre à ce que les exploitations des ressources naturelles, des ressources minières ne puissent pas rimer avec des problèmes écologiques, avec d'autres types de problèmes. Parce que quand on regarde notre pays par rapport à sa situation, par rapport aux menaces liées au changement climatique, au risque de catastrophes, etc., et même par rapport au niveau de pauvreté, nous pensons que si on a des ressources qui vont nous permettre de réduire certains de nos problèmes, nous devons y aller dans ce sens. Mais en allant dans ce sens, il ne faudrait pas qu'on suive le chemin qu'avaient pris certains qui a poussé à ce qu'il y ait des extensions, etc. Mais qu'aujourd'hui, il y a assez de connaissances. Il y a des théories, il y a des outils qui existent qui vont permettre à ce que l'exploitation du pétrole ne puisse pas contribuer à réduire la biodiversité, ne puisse pas contribuer à réduire les efforts de conservation qui sont en train d'être faits. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant que citoyens de veiller à cela. C'est également notre responsabilité d'interpeller les compagnies pétrolières, par exemple, et même l'État, à ce que les engagements pris soient respectés. C'est également notre rôle aussi de veiller, de faire en sorte que d'instaurer une veille écologique par rapport à tous ces aspects. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la direction par rapport aux études d'impact environnemental qui a été, le bureau d'études qui a été érigé en direction, c'est qu'il y a une bonne chose. Ça dénombre un peu quand même une volonté de leur donner plus de moyens, plus d'efforts. Mais également, je pense qu'il est important qu'il y ait une participation multi-acteur sur l'ensemble de ces questions. Et voilà parce que pourquoi il y a eu du soulèvement, pourquoi il y a eu des questionnements par rapport à cela, c'est parce qu'il n'y avait pas eu assez de communication par rapport à cela ou de concertation. Aujourd'hui, la réserve qui est là, c'est il y a déjà par exemple une ONG française qui a eu la possibilité de gérer depuis 2018, qui a signé une convention avec le ministère pour la gestion. Ouais. En dehors de ça, il y a des organisations communautaires qui participent. Donc je pense que avant peut-être cette décision, ces organisations auraient voulu être associées pour avoir plus d'informations. Et même ici au Niger, il y a des réseaux, des grands groupes de la société civile actifs sur ces questions qui ont peut-être, s'ils avaient été au courant ou eu des présentations sur la question, ne peuvent que peut-être proposer d'autres alternatives ou bien accompagner cette décision. Mais cela n'a pas été le cas, c'est juste au niveau du communiqué et nous pensons que c'est notre responsabilité de demander plus de clarifications à cela pour que ces animaux ne puissent pas disparaître.
Oui, alors nous abordons la deuxième partie de cette émission concernant les conséquences, avérées ou supposées de cette exploitation dans la zone de la réserve. Sani Ayouba, quelle est la principale inquiétude que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez? C'est que cette migration puisse être préjudiciable à la faune.
Déjà, nous notons qu'il y aura quand même la destruction des moyens de substance de l'ensemble des espèces au niveau de cette zone. Il y a également la question de la pollution, la question peut-être de l'insécurité, la question de la déforestation. Donc, c'est un panoplie. Aujourd'hui, quand on regarde même l'impact du changement climatique qui est là, qui est présent au quotidien, donc nous pensons que c'est des choses, c'est des effets qui sont là, qui peuvent nuire vraiment au développement ou bien qui peuvent, comme je l'ai dit, réduire les efforts de conservation. Donc, nous pensons que quand il y a de l'exploitation du pétrole, je n'ai pas vu un endroit au monde où il n'y a pas de conséquences sur l'environnement. Et d'ailleurs, l'étude d'impact environnemental le dit. Mais aujourd'hui, quand on regarde de 2008 à aujourd'hui, quels sont les rapports qui existent qui essaient de montrer voilà l'impact causé à l'environnement par rapport à l'exploitation du pétrole et voilà les mesures qui ont été prises pour compenser cela. Parce que c'est également cela, c'est pourquoi l'intérêt, parce qu'on a déjà fait le choix d'exploiter le pétrole. Maintenant, le tort que l'exploitation est en train de causer à l'environnement, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ça puisse être amoindri ou bien quels sont les efforts de compensation? Et aujourd'hui, si on déclasse également cela, quels sont les efforts d'accompagnement? Parce que c'est tout cela qu'il s'agit pour nous, de voir clair par rapport à ce qui adviendra de l'espace qu'on va prélever et du sort des habitants de cet espace-là. Parce qu'il n'y a pas que les animaux qui y vivent.
Justement,
il y a des communautés autochtones également.
Est-ce que quelque part aussi, les communautés autochtones ne seront pas impactées par cette mesure?
J'ai vu des études qui montrent que de 2003 à aujourd'hui, c'est plus de 11 millions d'euros qui ont été investis par rapport à dans cette zone. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des brigades où il y a des gens qui ne dépendent que des activités de conservation ou des activités en lien avec la réserve. Donc aujourd'hui, s'il faut couper une partie de cette réserve, est-ce que ces mêmes personnes peuvent continuer à exercer les mêmes activités? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et quelles sont les mesures d'accompagnement pour peut-être la nouvelle zone aussi? Là où les animaux vont migrer, est-ce qu'il y a des mesures, etc., qui ont été prises par rapport à cela? Donc, de tout cela, nous pensons qu'il y a des efforts qu'il faut faire pour l'implication des différentes parties prenantes qui sont déjà connues. Il n'y a pas besoin d'identifier les parties prenantes par rapport aux actions liées à la conservation d'une réserve.
Alors oui, lieutenant-colonel, un mot sur l'impact avéré ou supposé de l'exploitation pétrolière, en tout cas au niveau de la réserve.
Avant l'impact, moi je voudrais un peu réagir par rapport au propos de Sani. Et par rapport à ses inquiétudes, je crois que, comme je l'ai dit, il ne faut pas perdre de vue que la chose la plus importante, c'est la conservation de la biodiversité. Quand bien même cette biodiversité est inféodée à un milieu, mais que le milieu n'est pas, c'est vraiment pas seulement les 9,650 millions hectares de NTT, mais c'est beaucoup plus important. Et c'est vrai aussi qu'il y a des espèces qui sont inféodées à notre pays, mais qui peuvent aller ailleurs. Mais par rapport aux impacts que la zone, que l'activité peut, je crois que les animaux peuvent, à partir d'un certain moment, s'il n'y a pas l'impact, l'un des impacts les plus importants, c'est surtout le braconnage. Et comme on l'a connu avant la création de cette réserve, effectivement, il y avait certainement ces impacts liés au braconnage.
Mais est-ce que cette fois-ci, même le fait de migrer, de déplacer cette zone vers ces zones-là qu'on a citées, on a cité des communes, hein, notamment oui. Timia, Aderbisnat, on a en tout cas cité au moins 4 communes vers lesquelles la réserve a été déplacée. Est-ce qu'on ne craint pas justement la recrudescence de du braconnage?
Non, les gens font comme si, en fait, c'est un camion, on va les mettre. Ce n'est pas un élevage domestique, c'est des animaux qui sont sauvages. Aujourd'hui, ils ont des instincts. À un moment donné, quand il y a ce qu'on appelle pour les animaux, il y a ce qu'on appelle la distance de fuite. Une fois que l'animal voit que vous dirigez directement sur lui, il se dit effectivement qu'il y a quelque chose. Il va prendre de distance. La distance pour pouvoir essayer
de rester en vie.
Ouais. Mais si à partir d'un certain moment, s'il n'y a vraiment aucune inquiétude, je crois que les deux activités peuvent rimer. Et à partir d'un certain moment, même la zone qui est incriminée, je crois que si tous les acteurs sont d'accord, se sont engagés, il y a un dispositif que l'État a mis en place. D'abord, la création de la réserve. Au niveau de la réserve, on ne l'a pas créée comme ça. Il y a ce qu'on appelle les unités de gestion qui sont là, qui veillent, comme ton bureau, qui sont chaque jour que Dieu fait, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, il y a ces unités. Et ensuite, il y a des dispositifs, il y a des outils de gestion de l'espace. Et ces outils de gestion-là, c'est tous les différents acteurs. Comme il l'a dit, on est qu'au début. Même le conseil scientifique qu'on devrait mettre en place, il n'a pas été mis en place par rapport qui accompagne la création de la réserve. Ensuite, le conseil consultatif. Et le conseil consultatif est composé de tous les différents acteurs, y compris, par exemple, si SANI ou leur structure a des démembrements au niveau local, on va prendre en compte, puisqu'il y a même des personnes ressources qu'on peut convier pour aider. Ce n'est pas un vase clos. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent contribuer. Aujourd'hui, l'inquiétude des gens, ils pensent, ils font comme si c'est mathématique, quoi. On a enlevé une partie et on... Non, c'est vraiment nous, le souci, c'est d'essayer d'accompagner la conservation. Et si les différents partenaires sont d'accord, je crois que la conservation peut aller et il n'y aura pas beaucoup. Et c'est vraiment, on connaît, on a vraiment... pas mal de compétences par rapport à l'accompagnement. Même ce que le camarade Sani dit par rapport aux populations locales et tout.
Alors, nous, si vous voulez bien, nous allons bien sûr rentrer droit dans le but par rapport aux mesures de protection justement de la biodiversité, du cadre de vie dans cette réserve. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, une pétition a été lancée par justement les structures de la société civile, notamment Jeunes Volontaires pour l'Environnement et d'autres acteurs, pour un objectif de 50 000 signatures. Sani, quel était l'objectif visé à travers cette pétition et quel est votre sentiment au vu du nombre de signatures que cette pétition a eu?
L'objectif visé, c'est d'abord, premièrement, de dire non au déclassement. Secondo, c'est aussi d'interpeller les autorités par rapport à la gestion de cette zone, mais également d'interpeller surtout la compagnie pétrolière en question par rapport à ses engagements vis-à-vis de l'environnement. Donc voilà les objectifs autour desquels on s'est réunis. Je pense que c'est plusieurs citoyens d'abord, c'est au-delà des organisations, c'est des citoyens qui sont ici ailleurs, qui sont mobilisés pour, et ensemble nous avons lancé cette pétition. Et l'objectif de départ c'était 20 000 signateurs lorsqu'on avait lancé le 7 août. Mais avant 24 heures, on a eu les 20 000, ce qui nous a permis d'aller jusqu'à 50 000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 48 000. Donc, je pense que normalement, cette semaine, nous aurons les 50 000 atteints. C'est là pour nous est satisfaisant et cela montre également l'intérêt que les citoyens ont par rapport à la conservation de la biodiversité. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, pour nous, ça rappelle également qu'il y a en tout cas une prise de conscience générale par rapport aux ressources dont nous disposons ici au Niger. Donc, ce qui est salutaire, nous ne pouvons que remercier l'ensemble des citoyens qui ont fait, en tout cas, preuve d'engagement, de mobilisation pour signer la pétition. Et pour nous, à la fin, c'est de pouvoir prendre en tout cas les résultats de cette campagne pour les adresser aux autorités compétentes, à savoir le ministère du Pétrole et celui de l'Environnement, pour dire voilà ce que nous pensons et nous pensons que s'il y a des solutions alternatives, c'est le moment de rediscuter.
Alors, ces nombres qui ont été assignés, est-ce que l'espoir c'est de montrer aux autorités qu'il y a plus de Nigériens qui s'intéressent à cette question, il y a plus de Nigériens qui sont contre cette mesure?
Non, pour nous, ce n'est pas être pour ou contre la mesure. Pour nous, c'est de rappeler d'abord l'importance de cette réserve pour notre pays. Mais c'est également de rappeler également les efforts qui ont été consentis par rapport à la conservation de cet espace. Donc, pour nous, il ne s'agissait pas au profit du pétrole de revenir en arrière par rapport à tout ce qui a été investi. Et c'est pour nous également l'occasion de dire que dorénavant, il y a des questions sur lesquelles il faut tenir compte de l'ensemble des acteurs ou des parties prenantes. Surtout aujourd'hui que cette réserve n'a pas qu'un intérêt pour le Niger. C'est un patrimoine, on peut dire que ça... Parce que la nature n'a pas de frontières. La nature n'a
c'est
pas de frontières.
C'est vrai qu'elle n'a pas encore été classée patrimoine de l'UNESCO.
Absolument.
On peut supposer que c'est parce qu'elle date que de 2012. Même les autres réserves qui ont été érigées en patrimoine, il a fallu des décennies après leur création.
Oui. En tout cas, nous pensons que cet espace... Nous savons qu'au vu, en tout cas, des résultats, que c'est un bien commun à toute l'humanité. Donc, nous devons faire l'effort, comme elle est dit dans les conseils du développement durable, de faire en sorte que les générations futures aussi puissent en bénéficier.
Alors, lieutenant-colonel Hamissou Halilou Garba, après cette forte mobilisation et médiatisation à outrance de cette question, qu'est-ce qui est envisagé et ou quelle suite le ministère, en tout cas, compte donner?
Non, moi je pense qu'il faut se dire une chose, c'est que le Niger... C'est un grand pays de conservation. Pour preuve, on a pas mal d'espèces qui sont éteintes pratiquement partout dans le monde, sauf ici. Le cas de girafes, le cas de dax, même la gazelle d'Ama qui commence à se rarifier, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, on a dit, depuis un certain temps, depuis les années avant les indépendances, on a créé des aires protégées et on s'était dit qu'il fallait, on ne touche plus, on ne fait rien. Et à partir d'un certain moment, on a compris qu'il fallait vraiment ouvrir, s'ouvrir et accompagner. Puisque dans tous les cas, on est en train de conserver pour les générations présentes et futures. Et futures. Alors, si tant est que c'est ça, il faut amener tout le monde à mettre la main dans la conservation. Et en quoi faisant, signer des pétitions, c'est vrai, ça nous montre qu'effectivement, les gens sont éveillés, les gens sont à l'écoute, les gens sont mobilisés, mais il faut aller un peu au-delà. C'est quoi aller au-delà? Moi, j'aurais été d'accord si la pétition consiste à amener chaque Nigérien à prendre l'engagement qu'on ne va plus braconner. Et je pense que on peut même déclasser toutes les aires protégées de ce pays et il n'y aura aucun problème qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, il y a un exemple. En Afrique du Sud, par exemple, il y a ce que les gens appellent conservancie. Vous allez voir la biodiversité, la faune, devant des concessions, comme le cas de la zone girafe. Aucun problème. Et maintenant, les gens sont même en train de s'approprier la faune. Mais pourquoi pas, nous? C'est un degré de conservation, c'est un degré de prise de conscience à l'échelle, je dirais, citoyen, qui fait cela. Alors donc, je pense que l'État est là pour organiser, l'État est là pour accompagner. C'est vrai qu'on nous a dit qu'on n'a pas... Mais on est sur le chemin de faire en sorte que aujourd'hui, on fasse la conservation dans les meilleures conditions. Et au nom de la conservation, vraiment, je dirais, nouvelle formule, on ne peut pas fermer nos aires protégées pour dire que non, 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 on va conserver. Alors, pour ce cas-là, je crois que si la population, tous les acteurs sont engagés pour la conservation, je crois que par la notion de territorialité là, je crois qu'on peut reléguer ça au second rang.
Et donc, alors, je crois qu'on doit parler maintenant en termes de mesures d'accompagnement de cette mesure pour protéger et participer davantage à la conservation de la faune. Alors, vous avez dit qu'il y a cette direction qui a été érigée au niveau de cette zone pour faire justement les études d'impact environnemental et faire des recommandations. Alors, quelle garantie aujourd'hui on a que les différentes recommandations seront prises en compte ou sont prises en compte?
D'abord, avant toute activité, c'est une loi
Ensuite, il y a eu son décret d'application. Avant toute activité qui impacte l'environnement, on est assujetti à commanditer cette étude d'impact. Et l'étude d'impact fait un éventail des actions, des mesures, même des mesures d'atténuation. Même quand vous créez, par exemple, une structure, un projet ou quelque chose comme ça, et qu'on n'a pas eu le temps de faire cette étude d'impact, il y a des manières de rattraper, ce qu'on appelle, on fait l'audit pour voir maintenant qu'est-ce que ça a causé comme impact. Maintenant, à partir de là, on prend des mesures. Et je vous dis que par rapport à ce cas précis, la RNTT, la direction, ils mènent des missions séquentielles avec les conservateurs, avec les gens, les partenaires qui exploitent la zone, et puis les membres du bureau d'évaluation. Maintenant, quand ils reviennent, ils font un rapport, ils font une situation. Il ne faut pas oublier aussi que pratiquement les partenaires, ils ont aussi des volets environnement. Et donc, ils unissent leurs efforts pour pouvoir voir comment il faut corriger. Parce que tout le monde, aujourd'hui, veut aller vers des entreprises vertes. Vous savez, même le pétrole, l'exploitation du pétrole et tout. Il ne faut pas les voir comme ça. Tout le monde veut aller avoir ce certificat-là d'exploitation verte. Mmh. Et donc, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est le genre d'entreprises qui vont droit de cité. Et donc, par conséquent, ces différents audits, ces différentes missions d'évaluation, ces différentes missions sont sanctionnées par des rapports. Et ces rapports, on procède à la mise en œuvre pour voir comment il faut corriger. Je vais vous donner un exemple. Au moment où la réserve était, avant le déclassement de l'autre partie-là, moi, j'étais de ceux qui ont fait, vous savez, dans le cadre de la gestion, nous faisons ce qu'on appelle les inventaires. Donc, on est allé à un moment donné pour évaluer les ADAX. Donc, on a fait un inventaire aérien. Mais les partenaires qui étaient dans la zone, on a utilisé leur aérodrome. Ils nous ont hébergés, ils nous ont pris en charge et ils étaient partie prenante par rapport à la mise en œuvre. Quand le rapport était sorti, ils étaient d'accord à ce qu'on voit des mesures alternatives pour pouvoir régler le problème. Donc, c'est
donc
souvent...
La mise en œuvre des recommandations issues des différentes évaluations ne se pose pas.
Ne se pose pratiquement pas, puisqu'il y a un bureau qui veille, qui est devenu maintenant une direction générale. Et donc, vraiment, je pense qu'avec la direction technique concernée, s'il y a des impacts ou des effets qui peuvent être jugulés, ils font appel à ces directions-là et on voit comment on gère le problème. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a vraiment des mesures conservatoires, il y a vraiment des dispositifs qui sont là pour accompagner le partenaire ou pour accompagner l'État à la mise en œuvre ou en tout cas à gérer, à conserver l'espace.
Alors, Sané Ayouba, quelles mesures d'accompagnement vous voyez aujourd'hui pour cette réserve de Termite et Tintoma?
Oui, pour nous, c'est...
À défaut de reclasser la partie en question...
Pour nous, je pense que c'est important de renforcer les dialogues multi-acteurs autour de la gestion des aires protégées ici au Niger. Et nous pensons également que le ministère ou les ministères en question doivent faire l'effort en termes de communication. Et également, nous sommes d'accord par rapport aux études qu'il y avait eu, les missions de surveillance et d'audit, mais c'est des missions, à notre avis, qu'il va falloir peut-être associer les différentes parties prenantes, les acteurs de la société civile, que ce soit au niveau local ou au niveau national, mais également de faire en sorte qu'il y ait souvent des contre-expertises ou des contre-rapports. Parce que c'est ce qui permet vraiment souvent de s'assurer que tout se déroule dans les conditions. Et également aujourd'hui, l'État doit mettre des efforts, des moyens conséquents par rapport à cela. On ne doit pas attendre souvent que ce soit des partenaires extérieurs, des partenaires même qui exploitent, qui vont financer ces genres de missions ou ces genres de tout. Je pense qu'à un niveau, ça peut être biaisé. Donc c'est pourquoi l'État doit vraiment mettre suffisamment de ressources pour permettre à ce que la conservation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et nous pensons également que une gestion, comme je l'ai dit, une gestion participative et multi-acteur s'impose. C'est vraiment une nécessité dans ce sens. Et également, aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle situation, d'autres alternatives existent. Je pense que pour nous, ce n'est pas le dernier recours n'est pas forcément de déclasser, parce que la société chinoise en question exploitent dans les mêmes conditions ailleurs, mais ils font des efforts pour conserver sans pour autant toucher en tout cas l'environnement ou bien essayer de compenser le maximum possible les torts qu'ils sont en train de faire à la nature. Donc nous pensons que le Niger également mérite cela et qu'il n'y a pas à avoir de laisser aller ici, qu'ils doivent s'assurer, qu'ils doivent savoir garder à l'esprit qu'il y a toujours des organisations qui font cette veille. Il y a toujours l'État qui est là derrière aussi pour s'assurer que le respect des clauses est en cours, en marche. Donc nous, c'est tout ce que nous souhaitons, qu'il y ait cette synergie d'action autour de la préservation pour le bien-être de tous.
Alors oui, lieutenant-colonel, vous voulez ajouter quelque chose?
Je voulais ajouter évidemment quelque chose parce que effectivement, ce qu'il dit là, c'est ça existe. Nous sommes un ministère, nous avons une direction générale des eaux et forêts et au sein de cette direction générale, il y a une direction qu'on appelle la direction de la faune, de la chasse et des parcs et réserves. Donc il y a un dispositif. Et au niveau, à l'échelle locale, il y a les conservateurs, donc les unités de gestion. Il y a ce que je disais tantôt, le conseil consultatif. Chaque aire protégée a un dispositif qui la gère. Donc il y a d'abord un outil de gestion qui est le plan d'aménagement et de gestion. C'est dans ce plan d'aménagement qu'on planifie tout. Qu'on planifie toutes les activités qui doivent être faites. Et donc, dans ce cadre-là, les différentes réalisations, par exemple, la sensibilisation au niveau de la population, au niveau acteur, tout est prévu, tout est dedans. Et quand on regarde au niveau local, le plus important, pour ce qui est de la réserve-là, nous avons été vraiment en parfaite, je dirais, harmonie avec la population. Pour preuve, on a, depuis 2007 que ça a été créé, on a de Dolé. Ça, c'est les populations locales qu'on a réunies. Ils ont signé un acte d'engagement pour accompagner l'État pour la conservation. Ça a continué. De Goulé, ils se sont retrouvés en 2010. Ils sont retrouvés encore en 2011 pour signer, s'engager. Ensuite, en 2013, à Malunga. Ensuite, en 2017, à Dogumi. Tout ça, c'est des parties des villages de cette
qui
réserve
s'engagent
effectivement à accompagner et
la conservation,
à dénoncer, justement à dénoncer le braconnage ou à dénoncer des actes délictueux qu'ils auraient constatés. Et donc, je crois que ça, c'est vachement important. Et ce qui unissait les gens, il y a aussi, dans le cadre de la gestion, ce qu'on appelle au départ contrat terroir qu'on a signé avec les populations locales afin d'aller vers la conservation. Et si on réactive, si on s'engage, tout le monde est. C'est comme si les gens pensent que c'est l'État seulement qui est. Non, il y a des choses qui peuvent impacter 10 000 fois plus le déclassement que le
c'est
déclassement.
C'est pour ça que Sani parlait de concertation.
De concertation.
Sani,
oui.
Vous voulez ajouter un dernier mot, nous clôturons
par rapport. C'est vrai, ce qu'on ne comprend pas, quand on prend l'exemple de Kourou, je l'ai cité récemment, je dis si les girafes de Kourou, on a besoin de l'espace, est-ce qu'on peut dire qu'on peut les amener vers Niamey ou vers Dosso, voyez, sans que cela ne puisse avoir des conséquences sur leur milieu naturel, ce qui est un cas. Et également, l'autre chose, c'est par rapport à la gestion déléguée. Nous pensons que l'État est souverain dans ses choix, mais souvent quand il y a, puisque la gestion déléguée de la zone a été donnée exclusivement à une ONG étrangère qui a fait à sa manière, je pense que à l'avenir, il serait important, peut-être au niveau de l'État, d'imposer qu'il y ait des synergies avec des structures au niveau local qui peuvent, même au cas où ces genres d'organisations internationales quittent, qu'il y ait des organisations relais au niveau national ou local qui puissent continuer les activités qui ont été entreprises.
Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur les tenants et aboutissants de la déclassification d'une partie de la réserve naturelle nationale de Termit et Tentoma par le gouvernement du Niger. Pour l'heure, la décision de déclasser une partie de la réserve naturelle nationale de Termit et Tentoma reste en vigueur et ce, malgré le tollé soulevé dans l'opinion nationale et internationale. Si les activistes de l'environnement s'inquiètent que cette décision puisse nuire à la faune sauvage de la réserve, du côté du Conseil des eaux et forêts, l'espoir est fondé sur la capacité d'adaptation de la faune qui l'aideront à se mettre à l'abri du danger. Nos deux invités ont souligné l'importance de l'implication et de l'engagement de tous à la préservation de la richesse faunique de cette réserve. Nous étions en compagnie du lieutenant-colonel Hamish Ali Lumalam Garba, conseiller technique à la Direction générale des eaux et forêts, et Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement. Nous avons également invité le ministère du pétrole, je le disais en début, mais aucun représentant dans ces débats. Présentation Alassane Kouzi Mahamadou, volet technique assuré par Ali Issoufou, bonsoir.